Code philosophie de la nature de Père Marie-Dominique Philippe, le 3 décembre 1999, à Saint-Gérard.
Vous nous avez dit, la matière n'existe que parce qu'elle est déterminée. Elle existe par un autre qui est premier. J'ai du mal à voir le passage de l'un à l'autre de ces deux affirmations. Oui. Elle n'est pas créée, c'est ça qu'il faut dire, non. Elle n'est pas créée en elle-même. C'est pour ça qu'elle n'existe pas par elle-même. C'est une analyse. C'est là, vous voyez bien ce que représente la saisie d'un principe. C'est peut-être là où on le saisit mieux. Et puis la finalité, c'est les deux extrêmes. L'analyse d'un principe est une analyse intellectuelle. Et l'analyse que l'intelligence fait ne correspond pas à une séparation. Si c'était une séparation, tout ce qu'on saisirait principe, ce serait premier. C'est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Ce n'est pas premier dans l'ordre réel existentiel. Je dis bien dans l'ordre réel existentiel. L'intelligibilité, c'est réel, mais ça n'existe pas nécessairement en soi. Le katoto, en soi. Alors, j'ai du mal à voir le passage de l'une à l'autre de ces deux affirmations. Très bien. Que la matière n'existe que déterminée. Elle n'existe que déterminée. L'expérience nous le dit. Mais qu'elle existe par un autre, c'est l'induction qui nous le dit. À ce point de vue-là, c'est parfait comme type d'objection. Et pour bien comprendre, l'un, je le vois par expérience, la matière n'existe que déterminée. Vous n'avez jamais rencontré sur votre route, la matière indéterminée, qui se baladait toute seule. Je suis la matière. Et cependant, l'induction saisit un principe qui est autre que la détermination. C'est le principe d'accaparement. La matière étant pure puissance, accapare. C'est le grand pauvre, la matière. C'est extraordinaire, ça. Vous avez dit, donc, la matière n'existe que parce qu'elle est déterminée. Donc, n'existe que grâce à la détermination, si vous voulez. Elle existe toujours déterminée. Elle n'existe que par un autre qui est premier, qui la détermine. Autrement dit, quand je suis en face d'un être qui est mu, puisqu'on part de là, hein, tout le monde physique est mu. Vous n'avez pas de repos dans le monde physique. Et c'est très important d'affirmer là, parce que, autrement, on dirait la science moderne nous voit quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Mais vous l'avez vu avant, mais l'avez mal compris, très souvent. En scolastique, c'est pas toujours très net. Or, tout le monde physique est toujours mu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est essentiellement relatif. Il est toujours mu. Tout le monde physique. Et la science moderne, poussant très fort l'analyse sur ce qui est le monde physique, montre que le monde physique est un monde de mouvement. Tout le temps. Le repos n'existe que grâce au vivant. C'est le vivant qui se repose. Hein, ça a l'air l'inverse. Le vivant se repose. Ce n'est plus le vivant. Au contraire, c'est le vivant. Le vivant seul se repose. Grâce à l'immanence. Pour pouvoir se reposer, il faut... Vous voyez, quand vous n'arrivez plus à dormir, ça arrive, ça. Hein, ça peut arriver. Parce que vous manquez de vie. Alors vous êtes dans un état d'agitation. Et l'agitation, c'est pas du tout le vivant. C'est la matière qui est très agitée. Elle n'existe que dans le mouvement, voyez-vous. Donc, la matière n'existe que dans le mouvement, que dans le devenir. Et le vivant, il se repose. Premier acte du vivant, il se repose. L'enfant s'est reposé dans le sein de sa mère. Hein. Avant de naître, il a peine à naître. Il faut quand même commencer à ce moment-là à bouger. Hein. Avant, on était porté, et qu'à se reposer. C'est pour ça qu'il y a des retours dans le sein maternel. Hein. On était si bien. On n'avait aucune responsabilité. C'est merveilleux. On n'avait qu'à dormir, c'est merveilleux. Après, il faut trotter seul, avec tous les dangers que ça représente. On dégringole, on tombe. Première chute, c'est ça. On tombe sur la tête, on tombe. Vous voyez ? Donc, vous voyez bien, la première distinction est une séparation, la seconde distinction est une distinction de l'intelligence. Une distinction, je distingue, je ne sépare pas. Et quand je dis par un autre, c'est justement la détermination. Alors, si dans le monde physique, toujours en devenir, la causalité est toujours extrinsèque, et que cette causalité fait des relation de cause efficiente qui renvoie toujours à l'origine. Pourquoi ne pas chercher uniquement dans le devenir physique la cause efficiente? Parce que la cause efficiente ne me dit rien du tout ce que la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'est la réalité quand même. La cause efficiente est toujours extrinsèque. Donc elle ne me dit pas ce qu'est la réalité. Alors la cause efficiente, c'est vrai, une cause efficiente communique une détermination, puisque la cause efficiente est déterminée. Alors elle communique une détermination. Et cette détermination, elle est dans la réalité qui a été mue. Une réalité mue est déterminée, mais elle est aussi indéterminée. Toute réalité mue est à la fois déterminée et indéterminée. Elle est déterminée parce que c'est telle réalité qui est mue. Et elle est indéterminée parce qu'elle est en mouvement. Le mouvement est quelque chose qui vient relativiser la détermination de ce qui est mu. Parce que ce qui est mu change. Ce qui prouve que sa détermination n'est pas stable. Et qu'elle change. Et donc elle passe de telle détermination à telle autre détermination. Ça, c'est le monde physique. Quand vous retrouvez, et ça vous le constatez, c'est quand vous retrouvez un endroit que vous avez aimé, de la nature, vous le retrouvez au bout de 10 ans, tout est changé. Vous ne trouvez jamais les choses au bout de 10 ans qui sont les mêmes. Il y a de l'herbe qui a gagné, qui a fait que où ça, ils ont gagné, ils ont changé. C'est l'homme qui met la stabilité. Il vient couper, tailler tous les ans. Alors ça ne pousse plus. Il n'y avait qu'à voir. Enfin, c'est la manière de couper les arbres en haies. Ça doit se couper régulièrement. Autrement, si vous ne coupez pas, ça disparaît. C'est un broussaille qui pousse n'importe quand. C'est comme le dressage. Vous dressez la nature, vous la coupez comme ça, en haie. Vous pouvez vous coucher dessus. Ça fonce, ça fait rien, vous couchez dessus. Alors, voyez, il y a deux questions différentes. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Et la question d'où ça vient ne répond pas pleinement à ce que c'est. ça fait comprendre comment l'histoire n'est jamais sagesse. C'est une idée de devenir. Il n'y a pas de sagesse dans le devenir. C'est le pantareil, tout cool. La sagesse, c'est de découvrir la finalité. Et la finalité, en dernier lieu, c'est le bien qui attire. Et c'est Dieu. Alors là, c'est la sagesse. Et dès que vous trouvez le bien stable, plus de devenir, plus d'histoire. Et c'est contradictoire de parler de la sagesse historique. Il faut que vous découvriez ça pour ne jamais le dire. Et vous entendrez des gens qui vous diront qu'il n'y a que l'histoire qui est sagesse. Parce que eux n'ont compris que le devenir. Notre monde d'aujourd'hui est un monde qui aime le devenir et qui n'étudie plus que le devenir. Et même en art, ce qui est le plus intéressant dans notre art aujourd'hui, c'est la restauration. La restauration, c'est un art second, c'est pas un art inventif, la restauration. Ça, on est épatant pour la restauration. On restaure magnifiquement et très bien. Et c'est un art second, la restauration. Parce qu'il n'y aurait pas de restauration s'il n'y avait pas un art premier. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que vous cherchez dans la restauration? Vous cherchez à retrouver la couleur première, passée par le temps. À retrouver les lignes premières, abîmées par l'eau. On restaure. On veut retrouver ce qui était premier. Donc c'est toujours un art second. Vous voyez, quand vous découvrez sur un... Ici, on n'a rien découvert. Hein. Mais quand vous découvrez sur un plafond, un mur que vous frottez, vous... Oh, il y avait une vieille fresque qui était là. J'ai essayé de la restaurer. La retrouver. Et on avait badigeonné. Ce que les Turcs ont fait à Babylone, à Constantinople. Ils ont toutes les icônes, elles sont passées à la chaux. On ne voit rien. Il fallait rien. Celles qu'ils ont pu détruire, ils ont détruites, mais celles qu'ils n'ont pas pu, ils ont passé à la chaux. Alors qu'est-ce qu'on a fait après? Restaurer ces fresques, ces icônes. Retrouver ça derrière la couche qu'on avait mise. Et quelquefois, c'est simplement la vieillesse du vernis qui a été mis. Le vernis, en vieillissant, devient noir. Alors on peut restaurer, enlever ce vernis noir pour retrouver les couleurs. Dans la restauration, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez retrouver les formes premières. Parce que justement, l'histoire ne me donne pas la cause formelle. Et il faut découvrir la cause formelle pour redécouvrir la cause finale. Toujours par la détermination que je découvre la finalité. Quand vous n'avez plus de détermination, vous ne redécouvrez plus la finalité. Il y a un ordre entre les différentes causes. Bon, là nous allons continuer. Après avoir découvert la nature forme déterminée, je découvre la nature matière. Donc je découvre la cause matérielle. Alors vous voyez comme l'être physique, tout de suite, me fait découvrir la cause efficiente, il est mu par un autre cause efficiente. Ce qui est mu implique une détermination, implique une matière. Tout être physique implique toujours une détermination et une possibilité de changer. Donc une matière indéterminée. Puis, on va plus loin, on voit que par la détermination, la réalité matérielle a toujours une finalité. quelquefois la réalité matérielle a été transformée par l'art, et vous ne voyez plus la finalité, mais vous voyez la cause exemplaire. Ça, c'est très net, hein. Quand vous découvrez une vieille planche qui était dans un grenier, vous découvrez une vieille planche, vous la prenez, est-ce que c'est une planche qui est tout de suite de nature, ou est-ce que ça a servi à quelqu'un de faire un tableau? Puis on l'a rejeté, parce que vous ne voyez plus rien. Là, vous voyez, si vous découvrez qu'il y a des couleurs, des formes, ça a servi à peindre, à un tableau. À ce moment-là, vous ne cherchez plus la finalité du bois. Vous cherchez la cause exemplaire. Retrouvez la peinture, cause exemplaire. Et le bois a permis cette nouvelle causalité. Il a donné ce service. On a peint dessus. Et la peinture, dès qu'on découvre la peinture, on découvre la cause exemplaire, tout de suite. Tandis que si avec du bois, j'aurais la finalité du bois. Quelle est la finalité du bois? La finalité du bois peut être multiple, hein, parce que je peux me servir du bois pour me chauffer l'hiver. Est-ce que c'est la finalité du bois? Mais oui. Puisque le bois devient du feu. Ah. Et le feu est l'élément supérieur au bois. Et quand le bois brûle, le bois vous remercie de devenir du feu. C'est grâce à vous que le bois a brûlé. Le feu, c'est l'élément, on le verra, hein. C'est l'élément suprême. Donc le bois servira au feu. Le bois peut servir, être utile à la construction. Le bois peut servir comme un élément d'un tableau. Je peins sur ce bois. Il fallait qu'il y ait le bois pour pouvoir peindre. Autrement, on aurait mis une espèce de vieille toile. Si le bois était abîmé, j'aurais peint sur la toile. Parce que le bois peut être habillé. Et le bois demande quelquefois d'être habillé. Et vous découvrez des vieux bois habillés. Et vous trouvez un très beau bois derrière. Et aujourd'hui, on dit, oh, c'est quand même plus beau que son habit, ce bois. On est pour retrouver les éléments, aujourd'hui. En voyant, à un moment donné, on badigeonnait tout, on fourrait de partout. Aujourd'hui, on veut retrouver la pierre. Et on enlève tout ce plâtrage. Et ça fait partie de notre désir artistique. On aime mieux la pierre, avec tout ce qu'elle peut avoir d'irrégularité, un mur plat, très plat, aucun intérêt ce mur. Alors si derrière ce plâtrage, on retrouve la pierre, ah, c'est bien plus intéressant. Et puis tout d'un coup, c'est plus la pierre, il y avait un trou, là on a fourré des tas de choses dedans. Là, on comprend pourquoi on a plâtré. Parce que cette pierre était intéressante jusqu'à un bout. Vous voyez la finalité de la forme du bois. Il y a des finalités, il y a des déterminations secondaires qui viennent s'ajouter, des déterminations artistiques qui viennent s'ajouter. Et on peut retrouver la première détermination. Donc, on retrouve ça. Et puis, on comprend que la forme est déterminée. Aucune forme naturelle ne finalise par elle-même. Elle est utile à autre chose. Je parle du monde physique. Hein, du monde physique. Le monde physique demande à se finaliser par le vivant. Le vivant finalise le monde physique. Hein. Ça, c'est sûr. Le monde physique, c'est la Terre. Et la Terre, elle demande de nourrir des petites plantes et des petits asticots aussi, qui se cachent dedans. Dès qu'il y a de la vie, il y a toute espèce de la vie hein, là-dedans. Et puis, le monde physique impliquant la matière, quand la détermination n'est plus assez forte, il n'y a plus de finalité. Et c'est la matière qui alors, à ce moment-là, apparaît. Elle est source du hasard. Ça, c'est très important et très intéressant de voir ça. Parce qu'au fond, l'être physique, si je l'analyse philosophiquement, l'être physique me fait découvrir les quatre causalités, et même la cinquième. Causalité efficiente, causalité formelle, la détermination, causalité matérielle, causalité finale, causalité matérielle, le hasard. Et quand je me suis servi de la matière comme d'une matière sur laquelle j'ai travaillé, de façon artistique, artisanale, j'ai donné à cette forme une nouvelle noblesse, une nouvelle dignité. C'est devenu une forme d'art, une forme artistique. Et cette forme artistique me permet de découvrir la cause exemplaire. Et comme c'est intéressant, ce monde physique, il fait découvrir les cinq causalités. Travaillez la matière, vous découvrirez les cinq modalités. Quand vous travaillez la matière, il faut faire des pots, des vases. Vous voyez, la matière ennoblie par cette forme nouvelle. Et cette forme nouvelle, elle vient d'une idée, de la tête de l'artiste. Et tout fier de présenter cette œuvre d'art. Il a permis à la nature, au monde physique, à cette matière physique, d'être ennoblie. Et de vous donner, de montrer une œuvre d'art. Cette œuvre d'art peut être médiocre, comme elle peut être très belle. Et dans cette œuvre d'art, il y a toujours la matière. Corruptible. Corruptible. Vous ne l'avez pas rendu incorruptible à cause de votre forme artistique. Pourquoi ? Parce que cette forme artistique n'a jamais été la première forme naturelle. Donc, elle donne à cette matière déjà déterminée une nouvelle noblesse, mais une noblesse extrinsèque. Vous n'avez pas ennobli la matière, vous l'avez donné un manteau, une nouvelle physionomie. Mais vous ne l'avez pas ennobli en elle-même, elle reste corruptible. Et c'est ce qui explique comment, petit à petit, des choses qui étaient très belles, quand elles ont été faites, s'usent. Et ces choses très belles qui ont été faites, qui s'usent, on leur offre aujourd'hui un petit bâtiment particulier, le musée. Encore une fois, c'est pour maintenir les formes artificielles, le musée. Pour maintenir vivantes les formes artificielles. Parce que si elles restaient avec les intempéries, elles disparaîtraient très vite. Alors vous mettez au musée les plus belles statues. Au Parnéon, c'est ce qu'on avait. Les plus belles statues réelles. Puis vous avez fait des moules, et puis celles qui peuvent recevoir des douches d'eau, ça n'a pas d'importance qu'elles puissent. C'est pas le vrai, c'est la copie, c'est le moulage. peut retrouver dans ses formes et l'analyse de ça au plan philosophique, toutes les causalités. C'est intéressant, ça, de retrouver comme ça toutes les causalités. Et de voir à ce moment-là que la matière est un support. C'est le sujet radical qui supporte tout. Et que celle-là reste toujours défaillante, toujours corruptible. Plus ou moins, mais toujours corruptible. Vous avez quelquefois des matières qui sont extrêmement dures, hein. Le granit de Bretagne. Hein. Ça a la tête dure, ça. Ça peut supporter quand même des choses assez rudes. Quand la matière se dégrade, apparaît le hasard. Dans la dégradation, il n'y a plus de finalité. Donc ça se fait n'importe comment. Et quelquefois c'est très étonnant. C'est très étonnant. Quand la nature n'a plus assez de force, tout se dégrade. Il se dégrade par une forme plus violente, plus forte, qui vient entraîner la première forme. Et c'est alors le hasard. La cause matérielle est source du hasard. La cause matérielle, par sa détermination propre, échappe au hasard et a une nouvelle forme qui fait que, que ce qu'elle est, son mouvement, ne peut plus se donner à cœur joie. Parce que la cause matérielle est gardée La cause matérielle a été laminée et elle n'avait plus la force de maintenir la forme. Là, vous voyez que le hasard, c'est la cause matérielle, c'est indéterminé. Vous ne pouvez jamais savoir. Et c'est toujours intéressant de voir ça, la lutte entre l'art et la cause matérielle. Et ça, cette lutte, vous la voyez particulièrement quand des architectes doivent faire des barrages contre des torrents. Il y a eu, pas si longtemps que ça, un très gros barrage qui a été fait. Il avait été très étudié par l'architecte. Et puis, ce barrage a cédé. Il y avait une faille qui s'est manifestée. Ça a fait des dégâts énormes. Alors on avait un procès à l'architecte. Il n'avait pas bien vu la force du barrage. C'était une année où les torrents étaient particulièrement violents. Et ce torrent était particulièrement violent à cause de quoi? À cause du changement de saison un peu plus rapide. Vous ne pouvez pas prévoir ça. Alors, est-ce qu'il était coupable scientifiquement? Et ça, c'est la lutte constante entre le hasard et la connaissance de la matière, la connaissance de sa résistance, de sa force. Donc le hasard, c'est la cause matérielle livrée à elle-même, qui n'a plus de finalité. Dans un monde physique comme le nôtre, le hasard existe. Parce que je ne maîtrise pas entièrement la causalité matérielle. Personne ne la maîtrise entièrement. Parce que je ne peux la connaître que dans la mesure où elle est actuée. Elle est intelligible dans la mesure où elle est actuée. Or, elle résiste dans la mesure où elle est actuée. Mais la matière comme telle, je ne la connais pas. Elle a des rechutes étonnantes, merveilleuses, comme elle peut avoir des défaillances étonnantes. Et le hasard repose sur ces potentialités cachées dans la matière, toute matière. Oui, c'est toute cette querelle au point de vue philosophique entre le déterminisme et l'indéterminisme. La matière est source d'indétermination. Et donc, tout ce qui est physique ne peut jamais être entièrement saisi. Donc, ne peut pas être totalement déterminé. Et ça, vous pouvez le dire tout de suite. Dès que vous étudiez n'importe quelle réalité sous le point de vue matière et forme. La dualité fondamentale de notre monde physique, c'est matière et forme, qui se retrouve dans l'homme, qui fait partie du monde physique par son corps. Et vous retrouvez en lui la dualité, l'âme et le corps. Votre âme, vous pouvez un petit peu, à peu près la connaître, et voir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle peut lutter, et votre corps vous échappe. Dans le corps, il y a des ressources et des défaillances imprévisibles. Ça. La fortune, c'est la différence qu'Aristote fait entre la fortune et le hasard. La bonne fortune, hein, c'est quand l'homme se met à travailler avec sa finalité à lui. Ce n'est plus la finalité naturelle. Le hasard, c'est contre la finalité naturelle. Tandis que la bonne fortune, c'est contre le travail de l'homme qui veut faire telle chose. Alors, il y a des choses qui craquent. Et c'est la potentialité. Ce qu'il n'avait pas connu. Alors, ça, c'est la fortune, la bonne fortune et la mauvaise fortune. Alors, le hasard si mêlant, très souvent, ça fait que la mauvaise fortune. J'avais dit ce fait que, par exemple, ce sculpteur qui sculptait dans son granit, c'était un breton, dans son granit, le visage de Marie, et il avait bien, bien travaillé pour le prendre à la source. Il y a eu quelque chose qu'il n'avait pas vu. La possibilité d'une faille, d'une veine dans le granit, qui a fait sauter. Alors à ce moment-là, vous avez le hasard et la mauvaise fortune. C'était pour lui la mauvaise fortune. Il n'avait pas vu ça. Mais c'est la défaillance dans la connaissance. C'est deux choses différentes. Et puis, le hasard. Et un sculpteur est toujours très attentif à ça. Pas seulement le sculpteur, l'architecte. Aussi, par quelle mesure ces colonnes porteront quelque chose de nouveau, quelque chose de trop lourd. Si c'était trop lourd, ça craquerait.